Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 5, L'amour de Dieu, de la collection Commentaires du Coran.
A'udhu billahi al-sami al-alim min al-shaytan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursaleen, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Immédiatement commencer par le tafsir, et on vous a remis le document qui vous présente justement que nous allons parler aujourd'hui du tafsir de la sourate Al-Imran, versets 24 à 32, 26 à 32, donc une 8 versets importants et qui poursuivent ce que pour certains d'entre vous avez remarqué, j'espère, inshallah, c'est que depuis le début des cours, il y a une progression dans le choix des versets et dans le choix des passages. Et j'en profite pour dire une toute petite chose que j'aimerais qu'il soit retenu par les frères et les sœurs par rapport au tafsir. Quand il s'agit de tafsir, effectivement, pour ce qui concerne la langue arabe, pour ce qui concerne effectivement les compréhensions du moment de la révélation, eh bien il est évident qu'on fait référence à des savants, que l'on fait référence à des auteurs classiques, et de ce point de vue-là, il est évident qu'il est normal qu'on se réfère à des autorités en matière de précision, et par rapport aux circonstances de la révélation, et par rapport à la langue et à la compréhension. Mais il ne faut pas confondre ce travail avec ce que certains attendent quand on parle de commentaires ou de tafsir. C'est systématiquement de dire ce qu'ont dit les commentateurs à un moment donné, parce que ce qu'ils ont dit dans la compréhension du Coran est aussi lié au moment où ils le lisent et dans les circonstances où ils le lisent. Et que la particularité du tafsir, et c'est pour ça qu'il y a un renouveau chaque siècle de plusieurs tafsirs, plusieurs commentaires, c'est effectivement de mettre systématiquement le Coran en rapport avec notre situation. Donc on comprend à partir de sources et à partir d'éléments qui sont effectivement des sources fondamentales, mais à côté de ceci, il y a toujours à garder la relation vivante avec ce Coran, et que certains parfois disent, oui, mais tu fais une interprétation par rapport à notre situation. Mais bien entendu, le Coran est éternel pour tous les temps et tous les lieux. C'est par rapport à notre situation que nous, musulmans vivant en Europe, et vous en particulier dans la situation qui est la vôtre ici à Paris et dans les alentours, il faut garder cette relation vivante avec le Coran, dans le commentaire du Coran. Raison pour laquelle, quand on a demandé à un cheikh de ce siècle, quel est le meilleur des commentaires ? Ma huwa ahsanu at-tafasir, quel est le meilleur des commentaires ? Il n'a pas dit al-Tabari ou Ibn Kathir ou al-Qurtubi, qui sont bien entendu des tafasirs qui sont importants parce que c'est des références. Mais il a répondu cette réponse dont il faut vous souvenir, qalbuk, ton cœur. Ton cœur, parce qu'il faut que tu gardes cette relation vivante avec le Coran pour ton cœur. Il ne faut pas commencer à faire de l'exégèse du Coran un mur d'explication qui met un voile entre toi et la compréhension vivante de ce Coran. Donc raison pour laquelle le Coran tel que nous en faisons l'exégèse, je me réfère pour des circonstances évidemment à des savants, mais en même temps on fait une analyse qui correspond à notre situation. Petite introduction terminée. Dans le passage qui nous est donné, vous vous souvenez que la dernière fois nous avions parlé de Ghazwat Badr. Ici, Ibn Hisham, radiallahu anhu, dans sa recension, a relevé que selon lui, c'était les 8 versets que nous avons ici étaient plutôt à situer en l'an 9, au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit la délégation des chrétiens de Najran. Après étude, que ce soit Suyuti ou quelques autres savants, ils ont plutôt mis en évidence le fait que cette révélation était en l'an 3, c'est-à-dire soit juste avant, soit juste après Ghazwat Uhud. Et la plupart ont retenu l'idée que c'était après Ghazwat Uhud pour le contenu dont nous allons parler. Qu'est-ce qui se passe après Ghazwat Uhud? On va en parler aujourd'hui dans la deuxième partie. Ghazwat Uhud, c'est une bataille après laquelle les musulmans vont avoir le sentiment d'avoir perdu et que c'est un échec. Et effectivement, concrètement, dans les faits, il y a une défaite. Plus tard, effectivement, sur le plan moral et sur le plan du contenu, on peut presque considérer Uhud comme une victoire parce qu'elle a façonné les musulmans. Mais c'est une défaite dans les faits. Et les musulmans, les compagnons du prophète, alayhi salam, vont se poser la question. Comment se fait-il que nous qui portons cette vérité, qui avons cette révélation, nous soyons défaits de cette façon-là, et que ceux qui justement n'ont pas de révélation, qui sont polythéistes, puissent gagner, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne la victoire sur nous. Comment ça se fait? Comment se fait-il finalement qu'il y ait des choses incompréhensibles pour notre tête qui se passent sur cette terre? Que celui qui n'est pas avec Dieu gagne, et que celui qui donne tout pour Dieu perde. Comment? Ça vous dit rien ça? 1998, à Paris, les musulmans, comment se fait-il que dans notre communauté, ce soit la pagaille, et qu'à l'extérieur, il y en a qui réussissent tout le temps, quand leur conférence commence, elle commence à l'heure, vous voyez ce que je veux dire, quand ils font quelque chose, ils le font bien. Bien, eh bien, cette question, elle est de tout temps pour tous les musulmans, elle a toujours traversé notre cœur, c'est-à-dire de se poser la question, vraiment, pourquoi nous, qui avons cette perle, qui avons cette vérité, eh bien, nous échouons et que d'autres réussissent. Et comment expliquer un échec? En fait, ceux des compagnons après Ghazwat Uhud se posent la question qu'on se pose en toutes circonstances, nous autres, les musulmans. Eh bien, la réponse, regardez, c'est ces 8 versets qui sont d'une construction et d'une progression absolument édifiante, si on s'y arrête. Et je vous demande vraiment, après ce cours, même quand vous êtes tout seul à la maison ou en groupe, de revenir à ces versets et de les travailler en compréhension et en profondeur. Vous imaginez bien que dans un tafsir de 20 minutes, il ne soit pas possible de tout dire, mais essayons d'en dire quelque chose. Immédiatement, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à cette préoccupation des musulmans, elle vient pour rappeler le sens fondamental de la compréhension de celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous avons les versets, ceux que nous prenons dans un premier temps, 26 et 27. Nous avons ceci. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ces versets-là, immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala les fait descendre comme une révélation fondamentale. Dit, ô Dieu, maître de la seigneurie, tu donnes le règne à qui tu veux et tu reprends la royauté de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Car tu es, en vérité, puissant à toute chose. Première compréhension. À ceux qui se posent la question, comment ça se fait que nous, on soit dans cette situation et qu'il gagne, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala répond à ceux qui portent la foi dans leur cœur, dit, ô toi Dieu, tu es le maître de la royauté, tu es le maître au-delà de tous les maîtres. Et dans cette place sublime, dans cette place au-delà de tout qui est la tienne, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la prends de qui tu veux. Et la répétition par 4 fois dans ces versets, Mentesha, à qui tu veux. La reconnaissance pour celui qui porte la foi, qu'au-delà de son intelligence, parce que parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas avec sa tête, il y a des choses qui les éclairent avec le cœur. Et que celui qui est avec Dieu avec le cœur aura forcément dans la compréhension de ses proximités quelque chose qui apaisera sa tête. Mais celui qui se pose des questions uniquement avec sa tête, pourquoi cela, sans avoir la confiance en Dieu dans son cœur, sera perturbé dans sa tête par peu de lumière dans son cœur. Mais qui se souviendra dans son cœur que Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut et qu'il reprend à qui il veut, retrouvera le sens des choses, le comprendra. Et ça arrive également parfois quand on est dans une situation où il y a des frères et des sœurs qui perdent un être cher. Vous avez peut-être entendu, peut-être chez des personnes qui ne croient pas, c'est injuste. Parce que la personne, elle est jeune, elle est partie. C'est injuste avec ta tête. Pour celui qui n'a pas le cœur et qui ne fait pas confiance à Dieu dans son cœur, ben il comprend que c'est injuste avec la tête. Mais notre foi, elle est dans le cœur et le cœur est destiné à apaiser les questions de notre intelligence. Et il nous est dit ici, celui qui décide de tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne et il prend. Et il élève et il abaisse. Et il est puissant sur toute chose. Rappel fondamental aux croyants, quand votre intelligence ne comprend pas une chose, faites confiance avec votre cœur au maître des choses. C'est lui qui décide. Et quand toute chose, il y a une épreuve. Une épreuve pour ton intelligence, une épreuve pour ta situation sociale, une épreuve pour ta situation de conflit avec les autres. La confiance en Dieu pour apaiser l'intelligence de celui qui pourrait oublier Dieu et oublier que Dieu décide. Réponse fondamentale. Elle est fondamentale et c'est une réponse sur laquelle chacun d'entre nous, ceux qui portent la foi, doivent en permanence revenir. Quand ton intelligence trouve une chose injuste, demande à ton cœur de se souvenir que le Dieu de la justice décide. Et que ton intelligence peut considérer injuste ce qu'elle ne comprend pas, mais que Dieu sait au-delà de ce que tu sais. Un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est un rapport de confiance. Ce qui est également important par rapport à ce verset, c'est une chose importante. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية. Le nom le plus glorieux de Dieu, avec lequel s'il est interpellé, il répond, est dans ce verset. Raison pour laquelle il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir et essayer même de l'apprendre. Il y a dans différents aussi hadiths du prophète alayhi salam l'interpellation, vous savez, il y a 99 noms. Et il y en a un qui est le plus glorieux de tous. Et si on interpelle Allah subhanahu wa ta'ala avec ce nom-là, il répond. Alors il l'a dit dans d'autres circonstances, mais il l'a dit également par rapport à ce verset. Ibn Abbas rapportant les propos du prophète alayhi salam disant, dans ce verset-là, il y a Ismullah al-Azam, idha du'aya bihi ajab. C'est-à-dire s'il est invoqué par l'intermédiaire de ce nom-là, il répond à l'appel. Premier élément donc, c'est cette compréhension de Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous renvoyer à la compréhension « Inna Allah ala kulli shay'in qadir ». Dieu est puissant sur toute chose. Et parfois nous, on regarde les choses, on regarde les êtres humains, on se dit pourquoi ça leur arrive et pourquoi ça ne nous arrive pas à nous, et on oublie la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prend en nous disant « Je décide de tout », mais il n'a pas terminé. Il a dit « N'oublie pas de regarder autour de toi ». Et la puissance d'Allah, elle n'est pas seulement dans les hommes, elle est tout le temps autour de nous. Et il nous renvoie de la compréhension de la situation des hommes à la vision de sa création. Tu fais s'entre-pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. En d'autres termes, si parfois tu aurais, avec ton intelligence, tendance à ne pas comprendre, tourne-toi vers le monde et regarde ce miracle du jour et de la nuit et souviens-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de tout. Il décide des affaires des hommes comme il a décidé de la succession des jours et des nuits. Et si tu te perds dans les affaires des hommes, c'est que tu oublies de regarder le jour et la nuit. Qui ne sait plus regarder les signes de la création commence à se perdre avec les actes des hommes, avec les situations humaines. À oublier les signes, on en oublie la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut tout. Et ce n'est pas terminé. Et tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le mort du vivant. En d'autres termes encore, regardez les signes et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Il est le seul qui peut sortir le vivant du mort et il est le seul qui peut faire sortir le mort du vivant. Il donne la vie, il reprend la vie. Et ça nous amène à deux choses, ceci, parce qu'on peut le comprendre littéralement. La première compréhension de ce verset, c'est de dire Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il donne la vie d'un être et il la reprend. Et les Mufassiroun, ceux qui ont fait des exégèses, sont allés encore plus loin. Et ils ont dit, c'est aussi à comprendre dans le sens figuré. Au sens que donner la vie, c'est également donner la foi. Comme il est dit dans le verset du Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu, istajibu lillahi wa lil rasul idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. » Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel de Dieu et de l'envoyé quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et c'est quoi ce qui vous fait vivre? La foi. Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur. Et ici, tukhrijul hayya min al-mayyit, c'est tu fais sortir la foi du cœur mort. Comme tu fais sortir même parfois la, justement la foi de ce cœur qui était vivant et tu le rends mort. C'est Dieu qui décide de la foi. Et on comprend deux choses dans la compréhension de ce verset. C'est beaucoup d'humilité. Dieu décide de tout. Et d'une autre chose aussi, quand on pense à quand on parle aux gens autour de nous. Si un jour vous avez pensé que vous aviez le pouvoir de transmettre les éléments de la foi, ici vous avez une réponse. Dieu seul décide de ce qui de la vie des cœurs. Jamais quelqu'un d'entre nous ne décide de la vie des cœurs. Nous, parfois, on est des instruments pour éveiller un cœur. Mais celui qui le fait vivre, celui qui décide de la vie des cœurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais un être humain. Et donc, vous connaissez, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne mets pas sur la voie qui tu aimes, mais Dieu met sur la voie qui il veut. Premier élément donc, première réponse. Pensez-y. Pensez-y la réponse à l'interpellation des croyantes et des croyants. Comment se fait-il que nous ne réussissions pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une réponse. Je suis le maître de toutes les seigneuries et je décide de ce que je veux et je vous ai et j'ai décidé pour vous comme j'ai décidé de la création du jour et de la nuit, de la vie et de la mort. Et qu'à partir du moment quand on se souvient de cela, on se souvient de sa toute-puissance et de la relativité de notre compréhension. Et que parfois nos intelligences se perdent si nos cœurs se ferment. Que nos intelligences ne comprennent plus si nos cœurs ne sont plus illuminés. Et qu'en perdant la confiance en Dieu, on finit par créer l'orgueil des intelligences. C'est la confiance en Dieu qui diminue l'orgueil des intelligences, celle qui voudrait tout comprendre, que parfois il ne peut pas être possible de comprendre. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait avancer. Et il nous fait avancer dans la compréhension justement, dans cette crainte que parfois les musulmans ont à partir du moment où ils voient les autres vaincre, finissent par perdre le nord. D'abord ils ne comprennent pas, puis ensuite ils aimeraient établir des alliances ou établir une attitude par rapport à l'environnement. Et voilà ce qui nous est dit. Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche maintenant de notre comportement. Et qu'est-ce qui nous est dit ici dans le verset 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Il n'appartient pas à ceux qui portent de la foi de prendre pour alliés ceux qui ne croient pas contre ou sans ou à l'encontre de ceux qui croient. Ceux qui agissent de cette façon ne sont en rien en relation avec Dieu. Ceux qui agissent de cette façon ne sont en rien en relation avec Dieu. Et Dieu vous avertit et vous interpelle. Il vous avertit et il vous menace dans cet avertissement. Et c'est vers lui que sera votre retour. Alors par rapport à ce verset, simplement il faut une analyse très approfondie car il a été utilisé ce verset de mille et une façons et parfois de façon tendancieuse dans une lecture très littérale. Qu'on ne doit pas prendre pour alliés des gens qui ne portent pas la foi à l'encontre ou contre ceux qui sont croyants, ça a un sens très particulier. Certains ont utilisé ce verset en disant « Un musulman ne doit jamais être l'allié de quelqu'un qui ne croit pas. » Et ils ont rendu ceci absolu. Ils ont pris ce verset-là en disant « Tu ne peux pas entrer en relation. » D'ailleurs, il y a ce verset et il y en a d'autres. Or, ici, ce n'est pas du tout ce qui est mis en évidence et le contexte de cette révélation-là, effectivement, doit faire comprendre une chose. C'est que ce qui est dit clairement dans ce verset, c'est qu'il n'est pas permis à des musulmans ou à des croyants porteurs de la foi de rentrer en relation d'alliance avec ceux qui ne portent pas la foi contre leur propre communauté ou contre leur propre religion. C'est-à-dire de s'allier contre les intérêts, mais uniquement parce qu'ils craignent, ou parce qu'ils s'oublient, ou parce qu'ils sont hypocrites. Ce n'est pas l'alliance en tant que telle. Nous l'avions vu dans la vie du prophète, alayhi salam, qu'il avait eu des alliances et qu'il s'était même appuyé sur des personnes qui ne croyaient pas. Et que le verset du Coran, de ce point de vue-là, est clair. « La yanhaikumullah an alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim » Dieu ne vous interdit pas contre ceux qui ne vous combattent pas dans la religion ou qui ne vous ont pas sorti de votre demeure, que vous leur témoigniez dans Tabarruhum. Ici, il y a une notion d'affection, de reconnaissance affective et que vous soyez juste à leur égard. Donc s'il n'y a pas de conflit ici, il y a la possibilité d'établir des situations de respect mutuel et de collaboration dans le respect. Par contre, dans une situation de conflit ou dans une situation où il y a des alliances, alors là, il y a une interdiction ferme. Ce que tu n'as pas le droit de faire, ce qui ne t'est pas permis de faire, et le Coran de ce point de vue-là est clair, c'est de vendre ta religion, ta communauté, dans une alliance qui serait une alliance contre ta communauté pour pouvoir paraître gentil, pour pouvoir paraître justement te faire l'allié de ceux qui luttent contre ta communauté, qui luttent contre l'islam. Alors ça, c'est non. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de compromis dans le fait de démissionner des éléments de sa propre foi. Et alors, ça arrive en 1998, comme c'est arrivé dans toute l'histoire. Des personnes également qui, par crainte de l'ennemi, finissent justement par prendre pour alliés des personnes qui ne croient pas contre l'intérêt de leur propre religion et l'intérêt de leur propre communauté, qui oublient leurs frères et leurs sœurs, et qui même vont jusqu'à dire de leur religion des choses qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire, par exemple, que vous avez un frère ou une sœur qui prie 5 fois par jour et que vous allez avoir quelqu'un pour paraître moderne devant un public qui ne pratiquerait pas ou qui ne comprend pas le sens de la pratique des musulmans, disant « Oui, oui, lui, il est un tout petit peu extrémiste, il est un tout petit peu fermé. » Pardon ? Depuis quand est-ce que tu peux tenir des propos comme ça pour un public pour paraître gentil alors que tu es en train de trahir ta religion qui te dit qu'il faut prier? Si toi tu ne le fais pas, ça te regarde. Mais de dire de ton frère ou de ta sœur qui prie, ou quand elle se voile, ou quand elle pratique sa religion qu'elle est fermée, c'est vendre la parole de l'islam pour paraître gentil alors que tu t'allies avec des gens qui sont justement qui n'attendent de toi que cette parole-là. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. On ne fait pas alliance dans la compromission. Par contre, vous allez trouver, en France comme partout dans le monde, des gens qui, quand ils verront que vous avez des principes sur lesquels vous demandez à être respecté, par rapport auxquels vous demandez à être respecté, et que vous respectez votre interlocuteur dans ce qu'il a, alors ils vous respecteront. Ils perçoivent quand vous commencez à jouer, quand vous commencez à vous vendre, quand vous paraissez vouloir être gentil pour cacher des principes que vous n'arrivez pas à défendre avec courage. De ce point de vue-là, il faut que les choses soient claires. Le hadith, le verset ici, il est clair. Ça n'est pas permis de faire ce type d'alliance dans la compromission. Nous, ce qu'on demande de nos interlocuteurs, c'est nous avons une identité, nous exigeons le respect et nous témoignerons du respect. Le respect dans la reconnaissance de ce qu'est notre religion, là-dessus, il n'y a pas de compromission. On ne joue pas avec ces choses-là, comme on ne joue pas avec les alliances, comme vous n'entendrez jamais de ma bouche une parole qui, pour que vous me prouviez gentil, serait une trahison de ceux qui sont mes frères et mes sœurs dans leur pratique et dans leur vie quotidienne. Je ne trahis pas ni ma foi, ni mes frères, ni mes sœurs pour paraître gentil. Mais par contre, j'aurai une parole de vérité et demanderai le respect de mes interlocuteurs comme je les respecterai. C'est ça le véritable dialogue et c'est ceci qui est dit. Pas de présentation ou d'alliance avec ceux qui ne seraient pas de votre confession dans la négation de votre communauté ou la négation des principes de votre religion. Mais quand les termes de la relation sont clairs, alors c'est permis en islam d'avoir ces relations-là. Alors il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Retenez-le sur la base de ce verset rapidement. Deux choses qu'il ne faut pas faire. La première, c'est vouloir paraître tellement gentil, tellement transparent que tu n'es plus rien du tout. Tu es tellement ouvert qu'il n'y a plus rien. Tu as tout donné, tout vendu. Puis l'autre, c'est pour vouloir montrer que tu es tellement présent qu'il n'y a plus de dialogue possible. Je suis tellement là qu'il n'y a que moi qui parle. Je suis ceci, et il n'y a pas de discussion là-dessus, et on ne peut pas... Non, ça, de l'autre façon, et il n'y a pas de relation avec les kofars, parce que ce sont tous des kofars, tu te comprends bien. Pas de discussion. Cette attitude-là, les deux extrêmes sont les deux extrêmes erronés. De ce point de vue-là, il faut trouver une voie qui soit une voie du juste milieu, la voie de « j'ai mes principes, j'ai ma pratique, je fais partie d'une communauté de foi, je demande à ce qu'elle soit respectée ». Et je dialogue dans le respect, je ne dialogue pas dans la compromission, je ne dialogue pas dans le fait de me vendre pour paraître gentil. Ce verset-là, il faut le comprendre et de savoir une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous avertit. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. Il vous avertit contre lui-même. Attention à ceux qui trahiraient cet enseignement-là. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Et de ce point de vue-là, c'est à lui que nous retournons. Et il y a juste une exception. C'est-à-dire, sauf si vous craignez d'eux une persécution. Alors, qu'est-ce qui est permis dans ce cas-là, qu'on soit clair? Ce qu'on appelle le taqiyya, c'est-à-dire le fait de cacher. Alors, certains l'ont utilisé parfois par rapport à la tradition chiite, dans laquelle il y a cette référence-là. Dans la tradition de Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a effectivement ce terme-là. Par exemple, je vous donne un exemple. Deux femmes bosniaques se retrouvent dans une situation, vous connaissez la situation qui était la persécution, se retrouvent dans une situation où elles essayent de fuir la Yougoslavie pour se rendre dans un pays où elles vont être réfugiées. Elles se mettent dans un convoi, et quand on leur pose la question, elles se mettent dans un convoi autour, dans une région serbe. Et quand les Serbes l'arrêtent et posent la question, est-ce que vous êtes musulmanes? Elles disent avec la langue non pour protéger leur vie, mais avec le cœur elles le sont. Ça, c'est une chose qui est permise. Comme l'a dit Ibn Abbas radiallahu anhu, التقية باللسان لا بالعمل. C'est-à-dire, c'est avec la langue qu'on ne le fait, pas avec les gestes. On ne va pas commencer à se vendre, non. Par contre, avec la langue, le fait de préserver sa foi à l'intérieur, et puis dans une situation où c'est une situation où c'est ça ou la mort, ben vous avez le droit de le faire. Mais attention, dans une situation de vie et de mort, pas que certains sortent de la salle et disent, ah oui, moi je suis dans une situation de menace. Non, je ne suis même pas musulman, tu pries. Non, non, rien du tout. Je suis très gentil. Non, ça c'est dans des situations limites. Parce qu'il y en a qui sont un tout petit peu par rapport à ça, qui le comprennent très très mal, disant il faut paraître tellement invisible que finalement ils disent avec leur langue des choses qui ne sont pas à la mesure des dangers qu'ils vivent. Bien, on continue ceci en voyant une chose par rapport à la révélation, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir donné une réponse sur le monde, il vient tout près de nous en nous disant, vous voyez dans ceci, la réalité de votre relation avec ceux qui ne sont pas musulmans, avec les musulmans, avec votre religion, qu'est-ce qui en est le paramètre? Ce qui en est le paramètre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et regardez, tous les jours, Layla fin Nahar, il nous a parlé du jour, de la nuit, de la création des cieux et de la terre, et ensuite il nous a ramené dans notre cœur. Et dans notre cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Si vous cachez ce qui est dans vos poitrines, ou si vous le montrez, Dieu le saura. Et il sait tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, et sur toute chose, il est puissant. Et cette réalité-là, elle est finalement là. C'est là que ça se passe. Quand tu te poses la question, est-ce que c'est juste et pas juste, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, regarde, il est le maître de la royauté. Regarde, il est le maître de la création. Regarde, il est le maître de la vie et de la mort. Et il nous dit, attention à ne pas prendre de relation dans la trahison de votre être. Et que le vrai paramètre de ça, il n'est pas dans ce que tu fais seulement, il n'est pas dans ce que tu montres, il est très exactement à l'intérieur. Que vous le montriez ou que vous le cachiez, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait parce qu'il sait toutes choses. Et que la réalité, elle est celle-ci, l'alimentation dans notre cœur de ce rapport à Dieu de sincérité, parce qu'il sait tout. Et que, et dans notre compréhension des choses, et dans notre relation avec, vous voyez comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les choses, la relation avec une défaite va nous montrer comment tu seras dans une relation avec ton ennemi. Quand tu as échoué, c'est là qu'on voit le degré de ta foi. Comment tu vas être à l'intérieur? Et c'est à l'intérieur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mesurer. Et tout ceci pour nous annoncer une chose qui est le paramètre de tout. C'est à l'intérieur de ton cœur et qu'il y a un jour qui sera le jour où tout ça sortira. Yaouma yatajidu kullu nafsin ma'amilat min khayrin muhdara. Le jour où chaque être trouvera ce qu'elle a fait de bien présent devant elle. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Le jour où chaque être verra ce qu'il a fait de bien présent et ce qu'il a fait de mal, elle aimerait qu'entre ce jour et elle-même, il y ait une très longue distance, une distance très éloignée. Et ceci, c'est ce dont nous menace également Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous le rappelle ici dans ce verset en nous mettant en évidence de nouveau qu'un jour viendra, ce jour-là, ce sera le jour de la vraie révélation. Ce que tu as fait de bien sera montré, ce que tu as fait de mal sera montré. Et autant dans ton rapport à tes échecs, comme ceux de Uhud avaient échoué, et comme ceux effectivement, comme ça peut nous arriver à nous, c'est là le vrai paramètre. Et ce jour-là, il y aura le compte. Et c'est ce que chacun d'entre nous, nous croyons, et ce que chacun nous portons. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pris de la vision du monde à la réalité intérieure en nous disant, il y aura un jour. Et ce jour-là, c'est ce jour-là où tu verras ce que tu as fait de bien. Ce jour-là où tu verras ce que tu as fait de mal. Et ce jour-là, tu aimerais qu'il soit loin de toi. Et Allah, il nous dit, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. Et Dieu, il vous menace, il vous avertit contre lui-même de cette menace terrible. Mais immédiatement après nous avoir dit, attention à cette réalité-là, attention à justement ce rapport à lui. Wallahu ra'oufum bil ibad. Et Dieu est toute générosité et bonté pour les serviteurs. Au moment où il nous rappelle cette menace-là, il rappelle immédiatement après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon pour ceux qui sont ses serviteurs. En même temps, une compréhension très très ferme de ce qui est notre religion, de ce qui est notre rapport à ce jour qui sera le jour du dévoilement, en même temps de savoir que Dieu sera précis, mais que Dieu est miséricordieux. Inna rahmati sabaqat ghadabi, c'est-à-dire, selon le hadith al-Qudsi, ma miséricorde précède ma colère. Mais colère, il peut y avoir. La miséricorde précède la colère, mais colère il peut y avoir. Mais miséricorde il y a. Et donc de ce point de vue-là, de se souvenir que c'est ce jour. Et tout cet enseignement, il finit, écoutez bien, tout l'enseignement de ce verset, de ce doute des compagnons à un moment donné, qu'est-ce qui justifie notre défaite? Et Allah subhanahu wa ta'ala de rappeler, je décide, soyez sincères, soyez justes, sachez qu'un jour viendra où votre sincérité sera mise à l'épreuve. Regardez, la réponse finale, le dernier élément, le dernier verset, qui sont les deux versets que nous allons étudier maintenant, le 31 et le 32. Qul, rappel, dernière fois, dernier élément. Qul, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés et vous pardonnera vos erreurs, vos péchés en l'occurrence. Wallahu ghafurun rahim, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. De nouveau la répétition de la miséricorde et du pardon. Mais regardez ce verset. In kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Dieu, fattabi'uni. La réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé la puissance. Il nous a rappelé sa grandeur, il nous a rappelé la sincérité, il nous a rappelé de ne pas nous compromettre, il nous a rappelé de lui faire confiance, Il nous a rappelé de nous souvenir du jour du jugement dernier et il nous dit la clé de tout ça. Si vous voulez suivre le prophète, la clé, in kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Vous avez entendu, l'amour de Dieu précède le fait de suivre le prophète. Parce que celui qui obéit au prophète, il doit obéir et il doit pouvoir l'obéir dans l'amour de Dieu. En d'autres termes, on n'obéit jamais autant qu'à ceux qu'on aime. La véritable obéissance, celle de la relation avec Dieu, elle est dans l'amour. Et nous, parfois, dans notre enseignement islamique, on fait tout à l'envers. On apprend l'obéissance et on ne parle pas d'amour. Alors qu'il faudrait savoir que pour bien suivre le prophète, il faut aimer Dieu. Et que c'est l'amour de Dieu qui nous fait le mieux suivre le prophète. « In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkum Allah. » Qu'est-ce qu'on cherche? Le fait de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous aimez le prophète, si vous voulez suivre le prophète, il faut aimer Dieu. Et cet amour de Dieu et le fait de suivre le prophète va vous donner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, c'est vraiment une histoire qui est une histoire fondamentalement une histoire d'amour. Et que l'amour précède l'expression des principes. Ce n'est que dans le verset qui suit où il est dit « قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ » Donnez l'obéissance, obéissez à Dieu et à son envoyé. Ce n'est qu'après que c'est dit. Ce qui est dit d'abord, c'est l'amour. Alors j'aimerais vous poser une question à chacun d'entre vous, parce que c'est vraiment ça le secret de tout ça. Le secret de notre religion, c'est ça. Tu veux suivre le prophète? Tu veux le suivre jusqu'au plus petit détail de cette qudwa hasana, de ce meilleur exemple? Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu, il faut faire ce travail de proximité et d'amour vis-à-vis de Dieu pour suivre son prophète. Alors je vais vous poser une question. Vous le savez, il y en a parmi vous ici dans cette salle, ils sont... Papa, ils sont maman, ils sont filles, ils sont garçons, ils ont des parents. Vous avez jamais remarqué, enfin si vous l'avez remarqué, il n'y en a pas un d'entre nous ici qui n'a pas besoin, par rapport à l'amour de ceux qui sont autour de lui, de manifestations d'amour. Un enfant, il a besoin qu'on lui montre qu'on l'aime. Jeune garçon, une jeune fille, un mari, une épouse a besoin de sentir qu'on l'aime. Vous avez besoin de montrer, de manifester de l'amour à votre maman, à votre papa, n'est-ce pas? Et que manifester de l'amour, c'est exactement suivre l'exemple du prophète qui avait envoyé le compagnon lui dire « Dis à ton frère, inni uhibbuka fillah, que je t'aime en Dieu. » Il faut le dire, il faut le dire. Bien, je vais vous poser une question. On le sait par rapport à nous. On le sait bien par rapport à nous qu'il faut manifester cet amour. Ma question, elle est la suivante. Dans les quelques jours qui viennent de se passer ou dans les jours depuis quelque temps, qu'est-ce que vous manifestez et comment est-ce que vous manifestez véritablement votre amour envers Dieu? Comment est-ce que vous manifestez vraiment cet amour? Sur quoi il pourrait être dit dans votre relation avec Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala verra que j'ai fait ça par amour pour lui. Mais vraiment par amour pour lui. Et ne me parlez pas uniquement des prières, parce qu'il y en a certains, ils font les prières, la façon dont ils les font, c'est pas une expression d'amour, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim, tac 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 tac, je finis. Qui tu aimes quand tu fais ça? C'est exactement la même chose que si je viens vers mon frère Fouad et que ça c'est une montre, elle est pas à lui. Imaginons que c'est un cadeau. Et je viens vers le frère Fouad, je lui dis tiens, ça c'est pour toi. Lui, le frère Fouad, il va sentir que je l'aime très fort. Il faut qu'il ait beaucoup d'imagination. Eh bien, je vais vous dire une chose. Il y a dans nos pratiques par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala exactement cette même insolence. Cette même insolence. C'est qu'on fait des choses pour Dieu, mais on n'y a pas mis de cœur. Et que la vraie question que chacun d'entre nous doit se poser, dans la journée qui vient de se passer, qu'est-ce que j'ai fait qui manifeste que j'aime Dieu, que je l'aime, dont il comprendra que tout mon être est dans une relation d'amour avec lui. Comme je le suis avec mon père, comme je le suis avec ma mère, comme je le suis avec mon fils, ma fille, ma femme, mon mari. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ça. In kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Dieu, fattabi'uni yuhbibkum Allah. Suivez-moi et Dieu vous aimera. Et c'est bien ce qu'on demande dans les du'as tel que nous l'a enseigné le prophète, Allahumma nas'aluka hubbak. Dieu, nous te demandons ton amour. Mais pour qu'il nous aime, il faut qu'on l'aime et qu'on suive l'exemple de ce prophète. La conclusion de ce passage ici, elle est que dans cet amour, il y a le pardon. Revenir à Dieu pour lui demander de nous pardonner, c'est revenir à Dieu avec cet amour en sachant que c'est dans cet amour qu'il nous pardonne. Et il nous pardonne tous les péchés. Mais tout commence, non pas par les principes, mais par l'amour. Et c'est tellement vrai que vous avez dans ce verset-là, le verset qui suit, la réalité de ce que je vous dis. « Qul ati'u Allah wa rasul » « Obéissez à Dieu et à son envoyé. » Après l'aimer, obéissez. Parce que vous le savez, mais répétez-le vous en toutes circonstances et faites-le comprendre à vos enfants, à vos frères, à tous ceux qui vous entourent. On n'obéit jamais à quelqu'un aussi bien que quand on l'aime. Et qu'il faut aimer. Et le prophète, il faut faire en sorte d'être en relation avec lui en permanence. Pensez à lui, l'aimer. Aimer Dieu et penser à sa présence avec nous. Et c'est comme ça qu'on l'obéira le mieux. Pas dans cette façon que certains frères ou certaines sœurs ont de nous parler systématiquement et en permanence de principes qui sont comme des couperets, alors qu'on a besoin d'amour qui nous réveille et non pas de couperets qui nous amputent ou qui nous décapitent. Le prophète alayhi salam ne nous a pas enseigné ça. Le verset finit par ici en nous disant simplement une chose qu'on doit apprendre également sur ici. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Si avec tout ceci, il se détourne, Dieu n'aime pas ceux qui nient la vérité. Mais vous avez compris? Il faut tout ceci pour que le terme ici soit utilisé. لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne suivent pas le prophète, ceux qui ne lui obéissent pas. Mais pour utiliser le terme kafir, il faut savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Il faut savoir comment elle s'est détournée. Et qui d'entre nous ici, dans cette salle, peut dire d'une personne, je sais que de ce point de vue-là, elle est min ahl al-kufr. Bien sûr, shar'an, il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas. Mais ne dites pas de quelqu'un un terme définitif sur sa foi, parce que vous n'en savez rien, et que vous ne savez pas quelle est sa possibilité d'aimer Dieu. Et je vais vous dire simplement une chose. Il y a parfois des frères et des sœurs qui, après quelques jours de pratique, manifeste un amour renouvelé qui est parfois plus important que certains sur plusieurs années. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de qualité. C'est une question de qualité. Et il y a parfois des prières qui sont très profondes, qu'on fait dans le court terme, et il y en a qui prient depuis des années et qui prient sans profondeur. Ne confondez pas la relation avec Dieu avec une question de quantité et de multiplication. Dieu regarde le fond des cœurs, il ne regarde pas le nombre. Jazakumullah kulli khair.